when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table. Binge audio.
Attention, certaines situations dans cet épisode peuvent être choquantes.
Alors Fatima, s'il vous plaît. Bonjour, venez avec moi. Venez. Allez-y, entrez, installez-vous. Je me présente, je suis le docteur Escoda, hein, je suis le pédiatre. Tiens, vas-y, installe-toi, ma grande. Est-ce que vous avez le carnet de santé avec vous ?
Oui, d'accord. Ouais.
Alors, à part les soucis là qui l'amènent, est-ce qu'il y a des problèmes de santé particuliers ?
Oui,
non,
pas par
non.
Santé, non, pas.
Jamais opéré ?
Non, non, c'est...
Pas d'allergie ?
Non, pas
d'allergie. D'accord. Et est-ce qu'elle a fait des voyages dans les derniers mois, là, en dehors de l'Europe ?
Oui, de 2019.
D'accord, mais pas cette année ?
Oh, non.
D'accord. Alors, t'as quel âge, toi ? 5 ans ! T'es une grande fille. Et tu vas à l'école ? Non ? T'es à 5 ans, t'es chez les moyens ou chez les grands ? Ah, les grands. On s'assoit un petit peu ? Voilà. Tu respires fort ? Fort. Encore. Super. Vas-y, tu te rallonges. Parfait. C'est la seule à être malade à la maison, là ? Non, il y a d'autres personnes qui sont malades ?
Non, je ne suis pas là, ici.
Il n'y a que elle ?
D'accord.
Allez, tu me fais une grande bouche ? Grand, tu ouvres grand, bravo. Et tu me fais la plus grande bouche du monde. Hey, grand, 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 plus 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 grand. Je t'aide, ouvre grand. Je mets pas le bâton. Je mets pas. Regarde. Je mets pas. Ouvre grand. Bravo, super. Vas-y, n'aie pas peur. Grand, ouvre grand. Plus grande bouche du monde. Dis A. Ok. Allez, c'est bien. Bon, je pense qu'elle est très probablement grippée. Grippe, c'est un virus qui donne beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours, 4, 5, 6 jours.
Oui, écoute, hein, écoute,
avec fièvre, mal à la tête. D'accord ?
Malaria.
Comment ?
Malaria.
Non, pas malaria, pas le paludisme. La grippe.
Grippe.
Flou. Je vais simplement faire un test pour vérifier, c'est pas le Covid. D'accord ? Et puis comme elle a la fièvre depuis 5 jours, on va faire un petit stick au bout du doigt pour regarder le niveau d'inflammation.
Nous sommes aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. Dans la ville la plus jeune de France métropolitaine, c'est-à-dire la ville où il y a le plus de bébés, d'enfants et d'adolescents, il n'y a qu'un seul pédiatre. Alors, les parents vont aux urgences, souvent, car c'est l'unique lieu où l'on peut voir un pédiatre près de chez soi. Nous aussi, du coup, pour savoir si la tuberculose pouvait également atteindre les plus jeunes, on est allé aux urgences pédiatriques. Là-bas, on y a retrouvé le docteur Simon Escoda, pédiatre et chef de service, fervent défenseur du service public. Surchargées, ces équipes assurent avec force et patience les urgences vitales, comme les consultations plus classiques qui auraient pu être réglées ailleurs en cabinet. En janvier, fait rarissime en pédiatrie, le service a dû fermer quelques jours. Épuisées, à bout de souffle et malades, les infirmières et aides-soignantes ont déclaré forfait. Le soir de notre venue, la salle d'attente était étrangement calme. C'est le soir du débat de l'entre-deux-tours, la politique semble avoir un effet placebo.
Alors la question de la tuberculose et de l'enfant en Seine-Saint-Denis, bah, c'est loin d'être une question rare, hein, puisque, comme vous le disiez, l'incidence de la maladie dans le département est de mémoire la plus importante sur le territoire métropolitain. Comment est-ce que ça se répercute sur les urgences ? J'ai envie de plutôt dire comment ça se répercute sur nos prises en charge. Donc on a des questions autour de la tuberculose, non pas quotidiennes, mais hebdomadaires, voire mensuelles. Ensuite, on pourrait parler un peu des modalités de présentation de la maladie chez l'enfant. C'est rarement des situations d'urgence. Dans le sens où on se dit l'enfant va très vite, très grave et très mal. La question de la tuberculose chez l'enfant, ça c'est inhérent à la nature du microbe, est une maladie qui peut être silencieuse ou qui peut se présenter effectivement sous une forme qu'on dit subaiguë, c'est-à-dire des évolutions de pathologie respiratoire qui se présentent en quelques jours, mais c'est quand même de façon exceptionnelle une maladie qui va entraîner une problématique de pronostic vital sous quelques heures. Je veux dire, ça c'est rare, c'est très très rare. Donc c'est plutôt des problématiques de dépistage. Dans l'immense majorité des cas, les enfants se contaminent au domicile. Ensuite, les enfants qu'on est amené à voir pour des suspicions ou des maladies tuberculeuses, donc pour faire très simple, il y a deux grands cadres. Ça peut être la tuberculose dite maladie. On n'a pas pu le voir pendant la période dite d'incubation. Et l'enfant déclare effectivement la maladie en phase aiguë. Donc, dans l'immense majorité des cas, c'est des manifestations respiratoires. Hein, donc, j'ai de la fièvre, je tousse de façon chronique, j'ai un 37,8-38, des petites fièvres qui durent pendant plusieurs jours, je suis fatigué, je perds du poids, il va moins bien, etc. etc. Donc, ça, on peut être amené effectivement à aller voir ou en consultation ou des fois en urgence. D'ailleurs, une des particularités de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que quand nous, on a un enfant qui est tout chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique en lien avec la tuberculose ? Alors qu'effectivement, si vous allez Paris intramuros, un nourrisson qui tousse de façon chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'a pas un asthme de nourrisson ?
Ça fait combien de temps que tu attends, que vous attendez toutes les deux ?
Ça fait à peu près une heure et demie. Que j'attends qu'on... Ben, en fait, ma mère, elle est dans la salle là-bas. Et je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle attendait le médecin. Du coup, on attend chacun de notre côté. Vu qu'on n'a pas le droit de participer, il n'y a qu'une personne.
Dans la salle d'attente des urgences pédiatriques, Zaina, 6 ans, patiente avec sa grande sœur. Elles s'ennuient sec et attendent leur maman en consultation avec leur frère. La tuberculose, elles en sont bien loin, mais rapidement, elles comprennent que le micro est une aubaine pour passer le temps.
Je m'appelle Alfie Zaina, j'ai 6 ans, je suis née le 24 septembre 2015. En fait, mon métier que je rêve, c'est d'être une aventurieuse.
Aventurière.
Ah oui, c'est vrai.
Stressée.
C'était pas aventurière, en fait, c'est chercheuse.
Ok, pourquoi ?
Parce que après, tu peux chercher des belles choses qui sont dans la nature.
On parlait tout à l'heure de la désertification médicale en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, en pédiatrie. Est-ce que ça a un impact finalement et globalement sur l'état de santé des enfants ?
Évidemment qu'elle a un impact. Là où sur la commune, et comme je vous l'ai dit, on arrive quand même à répondre de façon, je pense, acceptable aux problématiques aiguës, parce que ça c'est la mission de l'hôpital, il ne faut pas oublier que l'énorme partie des problématiques de santé de l'enfant, c'est des problématiques de suivi, de dépistage et de prévention. Aussi bien en ce qui concerne les maladies organiques, mais également en ce qui concerne les problématiques psychiques, psychosociales. Et j'ai envie de vous dire, c'est là où on a un énorme problème. En France, énorme. Particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que les moyens alloués, déployés sur la prévention et la protection de l'enfance sont loin d'être suffisants.
Et ça, vous le notez, vous l'observez, vous le voyez au quotidien ici ?
Oui, on le voit. Je veux dire, le nombre d'enfants en souffrance psychique ne fait qu'augmenter. Alors encore, je pourrais vous donner effectivement des chiffres. Ce constat, il est partagé par tous mes collègues qui travaillent dans des centres hospitaliers avec des services de pédiatrie. On n'a heureusement pas de problématique ou en tout cas pas trop de problématiques de retard de prise en charge. C'est-à-dire que sur les maladies organiques, les maladies qu'on attrape, les maladies quoi, infectieuses, appendicites, fractures. Heureusement, on arrive à répondre encore de façon tout à fait satisfaisante aux besoins. Bon. Par contre, sur la question de la prévention, de l'accompagnement, du suivi, c'est là où il y a effectivement un gros travail à faire. La pédopsychiatrie, c'est un très, 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 très gros sujet national. Ça, c'est, on a une offre de soins qui est, enfin, qui est juste indigne.
C'est la respiration ou c'est les pleurs? D'accord, c'est les pleurs qui nous ont inquiétés, c'est pas la respiration. D'accord. Elle mange, elle fait pas de fièvre.
Elle n'arrive pas à boire ses biberons, mais du coup, elle lui donne du lait à la cuillère.
Elle a un peu. Des fois, elle a des ongles qui deviennent des couleurs.
Est-ce qu'elle a eu de la fièvre? Est-ce qu'elle a pris la température?
C'est quoi l'histoire?
Alors, cette petite, elle vient d'une ville. Ils sont en France depuis 5 mois. Dissonnée depuis hier. Moi, à l'accueil, au calme, j'avais un tirage interprétal, polyplique, battement des ailes du nez. Elle n'arrive pas à boire ses biberons et la maman lui donne du lait à boire à la cuillère.
D'accord.
Et une notion de dyspnée de cuillère.
Voilà, on n'a pas un joli tracé. Vous voulez qu'on mette à la main pour voir?
Et j'ai eu péniblement une saturation à 90.
Fleur incoercible.
Moi, j'ai pas de souci non plus. Bon, je te laisse terminer de l'évaluer, j'arrive. Hein. Alors, box 2, c'était quoi le résultat?
23.
Nickel, merci. Donc là, le nourrisson d'un mois là, qui est arrivé tout à l'heure avec une petite détresse respiratoire, en fait, il s'agit d'une cardiopathie congénitale qui s'ignorait. Donc c'est un bébé de 1 an qui est en France depuis maintenant 6 mois, originaire du Mali, donc qui est en France en situation irrégulière, qui n'a pas de prise en charge, qui n'a jamais vu aucun médecin de sa vie et qui, à l'occasion d'une altération de l'état général de depuis 24 heures, donc vient nous voir. Et donc sur l'échographie cardiaque de débrouillage, on objective une malformation cardiaque, probablement congénitale, assez avancée. Donc là, ce soir, elle va à Necker en cardiopédiatrie pour une évaluation et probablement que, une fois que le cardiologue aura fait son évaluation et donné ses directives, on nous la renvoyer pour suite de prise en charge. Mais c'est assez mal engagé pour elle. Hein. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une cardiopathie congénitale qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge ad hoc dans les 6 premiers mois de vie, il est possible qu'elle ait des anomalies des artères pulmonaires qui sont fixées et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Donc une cardiopathie sévérissime avec un pronostic global pas très bon.
Des cas aussi urgents et graves sur des bébés entièrement coupés du circuit médical, ce n'est pas fréquent, mais pas rare non plus, ici à l'hôpital de La Fontaine. Mais ces retards de prise en charge se retrouvent-ils aussi en matière de tuberculose pédiatrique? Le docteur Escoda a vu beaucoup de cas passer dans son bureau.
Alors, en ce qui concerne les souvenirs de prise en charge de maladie tuberculose, oui, j'en ai quelques-unes. Hein. Peut-être que je vais vous parler d'un des premiers patients qu'on a pris en charge, à ma prise de fonction ici, qui est une forme, on va parler trivialement, une forme un peu livresque, c'est-à-dire que l'enfant avait à la fois une pleurésie tuberculeuse, c'est-à-dire une maladie pulmonaire plus une maladie de la plèvre extrêmement importante, et ce qu'on appelle un mal de Pott, c'est-à-dire une infection osteoarticulaire des vertèbres. Ce sont des présentations cliniques que moi, j'avais vues en tant que jeune étudiant chez des patients SDF quand j'étais étudiant à la Pitié-Salpêtrière. Alors, évidemment, c'est des descriptions qui sont connues et documentées. N'empêche que le voir et le prendre en charge sur le territoire national métropolitain, ça m'a fait un peu tout bizarre et je me suis dit, oui, il y a quand même effectivement une problématique d'incidence de maladie et puis, quelque part pour cet enfant aussi, de retard de prise en charge.
Il avait quel âge?
12 ans.
Il va mieux?
Oui, il est guéri. Alors, avant de venir sur Saint-Denis, j'ai longtemps exercé à Paris Necker, enfant malade, donc dans le 15e arrondissement, également en tant que pédiatre généraliste orienté vers les soins des urgences. Pourquoi la Seine-Saint-Denis? Parce que simplement, j'avais envie de porter un peu l'expertise que j'avais reçue lors de ma formation initiale, puis lors de mes années de pratique sur l'hôpital Necker Enfants Malades, dans le département qui est juste à côté, parce qu'il y a un besoin en santé. Les besoins en santé de la population du 93 sont extrêmement importants et que je rebondis sur ce que je vous ai expliqué sur le sens du travail. Dire ici, on sait, les gens vous remercient d'être là. Voilà, tout simplement.
Je m'appelle Larissa, j'ai 26 ans et j'arrive pas avec mon fils parce qu'il me fait la fièvre depuis 3 jours. J'habite sur Blanc-Ménil. Oui, je connais très bien cet hôpital depuis 10 ans. Franchement, je connais tout l'hôpital de Paris. Franchement, tout l'hôpital. Mais je trouve que c'est le meilleur. Il y a les plus bons médecins ici. J'ai allé sur l'hôpital Robert Dobré, Necker, Trousseau, tous les hôpitaux, quoi. Mais les médecins, ils ne sont pas comme ici. Bah, je ne sais pas, c'est différent, les médecins d'ici.
Oui. Je vous suis,
Ouais.
Je vais continuer là-bas.
Yeah, on se retrouve. Comment on se retrouve?
Bonsoir.
Je vous laisse vérifier les étiquettes.
Je vais vérifier.
Voilà.
Alors. À mon médecin, il prend le temps, il explique toi chez les parents, ils ont la patience avec les enfants. C'est, franchement, c'est l'autre chose. En tout cas, moi, j'ai accouché tous mes 3 enfants ici. Moi, quand j'ai accouché mon premier enfant, j'étais mineure, j'avais 16 ans. Moi, je trouve que c'est un bon hôpital. Il faut des médecins parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je crois que c'est le. Il y a plus des enfants ici qu'en quoi sur Paris.
Vous venez d'où ?
Je viens de Roumanie.
Roumanie ?
Oui.
Vous habitez là depuis longtemps ?
Depuis quand j'avais 8 ans.
En Seine-Saint-Denis ?
Oui. Bah, moi, j'avais des problèmes de santé. Et c'est pour ça que mes parents ils m'ont ramenée ici. Et après, j'ai resté avec mes parents, quoi. J'aime bien parce que c'est ici que j'ai grandi.
On l'a dit, ici il y a peu de médecins, les conditions de vie sont parfois très compliquées. Et en même temps, vous me disiez, j'en ai un peu marre aussi qu'on pointe exclusivement cette dureté, cette précarité, parce qu'il y a aussi une offre médicale extrêmement puissante, extrêmement efficace, et voilà.
Ben oui, parce que en réalité, le département, c'est quand même, de par sa jeunesse, un département qui bouillonne. Je pense que c'est pas foutu du tout. Si je pensais que c'était pas foutu, je serais pas venu. Je serais resté tranquillement Paris 15e. N'empêche que, oui, il y a une problématique de moyens, et je pense que ça c'est effectivement important de parler du département et de l'offre de soins dans sa version dynamique et de tout ce qu'on a été capable de mettre en place. Depuis les quelques années. Les médecins qui viennent travailler ici, on ne vient pas travailler ici par hasard. Ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'on, globalement, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. Ce dont on a aussi énormément besoin, c'est qu'il y ait effectivement un développement de jeunes praticiens qui s'installent, entre guillemets, ou qui aient une pratique qui est hors hôpital.
Hors hôpital, la situation est tendue et les jeunes médecins tardent à prendre la relève. Des maisons de santé voient le jour, mais elles semblent trop peu nombreuses encore. Alors, pour les bébés, il reste heureusement les PMI. Là-bas, dans toute la Seine-Saint-Denis, et comme partout en Île-de-France, les enfants y ont un accès prioritaire à la vaccination contre la tuberculose, le fameux BCG.
Je vais la regarder un peu.
D'accord.
Et après, comme elle a 35 jours, on va la mesurer.
D'accord.
Avec la toise. Okay. On ira là-bas, elle est mieux. Parce que.
Mais une fois de plus, il faut qu'il y ait un médecin, seul compétent pour vacciner. Et à Saint-Denis, sur 6 PMI, 4 n'ont actuellement plus de médecin.
Là, maintenant, la dame, quand vous étiez sortie, la dame qui vient d'Inde et qui parle rien du tout, c'était que par les signes. Eh bien, cette dame qui dit rien, elle m'a dit « Ici, la piqûre, le BCG !» Elle n'a pas dit BCG, mais elle a dit, parce que moi j'ai dit « il y a ici, pic-pic », et elle m'a montré le bras, parce que le BCG, elle sait, c'est toujours au bras. On est bien demandé, et je trouve ça dommage qu'au fil de l'eau, tout ça, c'est en train de se perdre.
De quoi, c'est-à-dire ?
tout le suivi vaccinal, le suivi des bébés, le soutien quotidien.
Mais pourquoi ça se perd ?
Parce que qui veut venir travailler ici ? Le médecin, il répète chaque semaine, je ne suis pas sûre de rester. On n'est pas dans un film, hein, on est dans la réalité. Je ne sais pas, moi, on ne fait pas ça aux gens.
Vous êtes inquiète ?
Oui, oui, quand même. J'ai pas envie de partir. Je voudrais continuer la PMI, mais... En fait, le point culminant que veuillent les familles, c'est les vaccinations et le docteur.
Quel est votre regard sur ce vaccin, sur le BCG ?
Le BCG, pour moi, c'est très important. Mon grand-père, il est mort de ça, de la tuberculose. Et à Paris, moi, mon ex-mari, il a eu la tuberculose aussi.
Que redoutent les parents qui refusent ?
Pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise avec le BCG ? Parce que... on n'en parle plus très bien du BCG. Peut-être on a oublié cette maladie.
Anne-Marie de Freitas est infirmière puéricultrice. À la PMI Henri Barbusse, où elle officie depuis quelques années, le soleil transperce les baies vitrées, les jeux sont installés, les enfants sont occupés. Tout est clair, calme et agréable. Ici, Anne-Marie observe les tendances et les fluctuations vaccinales relatives au BCG. Créé il y a 100 ans, ce vaccin a été inventé par deux médecins, Camille Guérin et Albert Calmette. Ils ne déposeront jamais de brevet afin d'offrir le BCG au plus grand nombre. Aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, le vaccin est en rupture de stock, les laboratoires refusant d'en produire davantage, on ne sait pas bien pourquoi.
En 2015, il y a eu un arrêt. Il n'y avait plus de BCG, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau contrat et qu'on achète le BCG à un laboratoire polonais. Il n'y en avait plus parce que la France ne le fabriquait pas. Pourquoi la France a arrêté de fabriquer ça ? 2015, ça a été arrêté. Au 1er janvier, il n'y en avait plus. Je me souviens, j'étais en PMI à Champigny. Alors, les gens le réclamaient en plus. Il n'y en avait pas.
Anne-Marie de Freitas, à défaut d'avoir le droit de vacciner les bébés, repère les populations à risque et favorise le dépistage. Le jour de notre venue, une maman arrive, son bébé sous le bras. Il a, semble-t-il, côtoyer une personne atteinte de tuberculose.
Donc j'ai fait un tubertest à Ahmad vendredi. Et trois jours après, il faut lire le tubertest. Merci, vous avez... Le tubertest, c'est pour voir... parce que madame vit dans la famille, ici à Saint-Denis, en France. Et il y a eu quelqu'un qui a eu la tuberculose. Hein, quelqu'un qui vit dans la même maison. Ouais.
Et comment
on fait un test aux enfants parce que, comme il était en contact, je ne sais pas s'il a dormi avec elle, c'était sa tata.
Non, c'est quelqu'un, on a hébergé quelqu'un dans la même maison.
Wow.
Et après, elle teste positif pour tuberculose. Maintenant, c'est fini. Elle a guéri, mais pour faire le vaccin de BCG, il faut qu'on fasse le test avant.
Et le test, c'est quoi ? Vous me dites, c'est quoi ?
Donc, on injecte 0,1 ml de tuberculine en intradermique. On fait la petite bulle. Et trois jours après, on regarde s'il y a une réaction. On lit s'il y a une rougeur, un gonflement. Ça veut dire qu'il y a une inflammation, une réaction. Et on lit le nombre de millimètres. On prend la règle et on mesure. Et si c'est supérieur à 9 mm, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Donc ça fait 2 mm. Donc c'est rien, mais c'est noté. Et puis vous aurez le rendez-vous en avril.
Avril
pour faire le BCG.
D'accord. Pour vaccin, il est négatif ?
Oui, c'est négatif. D'accord. Oui, c'est négatif. Pardon, excusez-moi. Vous aviez peur. Oui, parce qu'il est venu souvent à la maison.
Oui.
Ouais. Il est négatif. J'écris négatif, 2 mm.
Et la région parisienne n'est pas la seule concernée en France. Par exemple, au mois de mai dernier, les autorités de santé s'alarmaient d'une hausse des cas constatée dans l'Hérault. Merci à Olivia Muller pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson. Merci au docteur Marie Vicky, à toute l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU Social. Et merci à Momo. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.